Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Cette année, j'aimerais vous parler, en plus des étoiles et des constellations, de ceux qui ont jalonné l'histoire de l'astronomie, des découvertes scientifiques de l'espace. Je vous propose de commencer avec Claudius Ptolémée, souvent simplement appelé Ptolémée. C'est l'une des figures les plus emblématiques de l'astronomie antique. Son œuvre, principalement l'Almageste, a jeté les bases de l'astronomie occidentale pendant plus d'un millénaire. Mais avant d'en revenir à Ptolémée, parlons un petit peu des astronomes antiques, car l'observation des étoiles date évidemment d'aussi longtemps que remonte l'humanité. Les astronomes de l'Antiquité ont jeté les bases de notre compréhension moderne de l'univers. Ces pionniers ont observé le ciel à l'œil nu, consignant des mouvements célestes et développant des théories qui ont influencé la science pendant des siècles. L'un des plus connus de ces astronomes de la Grèce antique, c'est Thalès. Alors, il est connu pour le célèbre théorème qui porte son nom, mais il a aussi été célèbre pour avoir prédit une éclipse solaire en 585 avant Jésus-Christ. C'est Hérodote qui signale dans ses écrits que Thalès de Millet avait prédit cette éclipse qui s'est produite durant la bataille entre les Mèdes et les Lydiens le 28 mai 585 avant Jésus-Christ. Les soldats des deux camps jetèrent leurs armes et proclamèrent la paix à la suite de ce phénomène. Bon, alors, il faut se garder d'accepter à la lettre tout ce que dit Hérodote, hein, mais Thalès avait quand même compris le phénomène de l'éclipse de soleil, car il dit: l'éclipse de soleil se produit quand la Lune, dont la nature est terrestre, vient se placer à l'aplomb sous lui. Mais il ne possédait pas, vraisemblablement, les outils pour prédire un tel phénomène aussi précisément. Thalès croyait que l'eau était le principe fondamental de toute chose et pensait que la Terre flottait sur l'eau. Ses idées sur la nature et l'univers ont influencé de nombreux penseurs ultérieurs. Il a décrit la petite ours et conseilla aux marins de s'en servir pour se guider. Il a calculé la durée de l'année, constatant que l'année ne comptait pas 365 jours, mais 365 jours et quart, d'où nos années bissextiles une fois tous les 4 ans pour rattraper le jour manquant. Il calcula aussi des intervalles de solstice, d'équinoxe, mesura le diamètre apparent du Soleil, des grandeurs relatives du Soleil et de la Lune, et sans doute en s'aidant d'un instrument tel qu'un gnomon. C'était une sorte de cadran solaire assez basique, un bâton vertical qui lui permettait de mesurer la portée de l'ombre du soleil. Il y a aussi Anaxagore, qui a introduit l'idée que les corps célestes étaient faits de la même matière que la Terre. Il a expliqué les éclipses, les phases de la Lune. Il a soutenu que le soleil était une masse incandescente, plus grande que le Péloponnèse. Bon, il est un petit peu loin. Ces théories matérialistes ont conduit à son exil d'Athènes, mais elles ont profondément influencé la pensée scientifique. Et puis venons-en à Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité. Il a développé un modèle géocentrique de l'univers. Il pensait que la Terre était immobile au centre de l'univers, avec les corps célestes qui orbitaient autour d'elle. Aristote a décrit les mouvements circulaires parfaits comme les mouvements naturels des cieux et a catalogué de nombreuses observations astronomiques. Son influence a duré jusqu'à l'ère moderne. Mais la pensée géocentrique d'Aristote était loin de faire l'unanimité en Grèce antique. Aristarque de Samos est souvent cité comme le premier à proposer un modèle héliocentrique de l'univers, où la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Il a également estimé la taille et la distance de la Lune et du Soleil par rapport à celle de la Terre, en utilisant des méthodes géométriques assez sophistiquées. Bien que ces idées aient été rejetées à son époque, elles ont été redécouvertes et validées des siècles plus tard. Mais si les Grecs étaient de grands calculateurs, ils étaient aussi de grands observateurs. Hipparque a souvent été considéré comme le plus grand des astronomes de l'Antiquité. Il a découvert la précession des équinoxes, compilé un catalogue d'étoiles en listant environ 850 étoiles et leurs positions. Il a développé des méthodes pour prédire les éclipses, il a amélioré la précision des mesures des positions célestes. Hipparque a également calculé la distance de la Terre à la Lune. Avant d'en venir à Ptolémée, faisons un petit tour du monde de l'Antiquité, car les Européens ne sont pas les seuls astronomes à l'époque. Bien avant eux, les Babyloniens, qui vivaient en Mésopotamie, ont été parmi les premiers à consigner leurs observations astronomiques. Dès le deuxième millénaire avant notre ère, ils utilisaient des calendriers lunaires et solaires pour réguler les activités agricoles et religieuses. Ils ont également développé des tables de mouvements planétaires et de positions stellaires. Ils ont identifié un cycle d'environ 18 mois et 11 jours qui régule les éclipses solaires et les éclipses lunaires. Ce cycle, connu sous le nom de cycle de Saros, permet de prédire les éclipses. Ils ont également établi des tables précises des mouvements de Vénus et des autres planètes qu'ils utilisaient pour des prédictions astrologiques. L'astronomie chinoise est tout aussi remarquable. Avec des enregistrements méticuleux des phénomènes célestes remontant à plusieurs millénaires, les Chinois ont observé des comètes, des éclipses, des novas, souvent en les liant à des présages. Ils ont par exemple consigné l'observation de la comète de Halley, 240 ans avant Jésus-Christ. Les Mayas, en Amérique centrale, ont développé une astronomie sophistiquée et une connaissance précise des mouvements des corps célestes. Leur calendrier, basé sur le cycle solaire et lunaire, est extraordinairement précis. Il comprenait des cycles de 260 jours et de 365 jours, ainsi qu'un compte long pour les périodes plus longues. Les Mayas ont observé les mouvements de Vénus avec beaucoup de précision, car ils utilisaient ces informations dans les prédictions astrologiques et pour leurs cérémonies. Mais venons-en à celui qui nous intéresse aujourd'hui, Claude Ptolémée. Ptolémée est d'origine gréco-égyptienne. En tant qu'astronome, mathématicien et géographe, il a synthétisé et perfectionné les connaissances astronomiques de son temps, créant un modèle géocentrique de l'univers qui a dominé la pensée scientifique jusqu'à la révolution copernicienne du XVIe siècle. L'œuvre de Ptolémée est la continuation de cette longue lignée de scientifiques grecs que je vous ai cités, fondée sur l'observation des astres, les nombres, le calcul et la mesure. Avec l'œuvre d'Aristote, c'est essentiellement à travers l'œuvre de Ptolémée, transmise à la fois par les Arabes et par les Byzantins, que l'Occident redécouvrira la science grecque au Moyen-Âge et à la Renaissance. Alors Ptolémée est né en 100 après Jésus-Christ, dans la région d'Alexandrie en Égypte. C'est alors une région sous domination romaine. Alexandrie, c'était le centre du savoir et de la culture, abritant la célèbre bibliothèque, un haut lieu de recherche et d'érudition. Dans ce contexte, riche en échanges intellectuels, Ptolémée a eu accès à un véritable corpus de connaissances astronomiques et mathématiques accumulées par les civilisations précédentes, notamment par les Babyloniens, les Grecs ou encore les Égyptiens. L'œuvre la plus célèbre de Ptolémée, c'est l'Almageste. C'est un nom dérivé de l'arabe qui signifie « le plus grand ». C'est une compilation et une extension des connaissances astronomiques de son époque. Originellement intitulé « Mathematicae syntaxis », c'est-à-dire « composition mathématique », ce traité, en 12 livres, couvre une gamme impressionnante de sujets astronomiques. L'une des contributions majeures de cet Almageste, c'est la formalisation du modèle géocentrique de l'univers. Donc, selon ce modèle, la Terre est immobile au centre de l'univers, et tous les autres corps célestes, y compris le Soleil, la Lune et les planètes, tournent autour d'elle. Ptolémée reprend donc le modèle d'Hipparque, qui est assez proche de celui d'Aristote, mais il y ajoute la notion d'écouen, qui vient faire évoluer le principe aristotélicien du mouvement circulaire et uniforme pour un mouvement plus proche de l'ellipse. La grande force de l'Almageste de Ptolémée, ce sont ses observations, qui, jointes aux données antérieures dont il disposait, offrent un recul permettant une mesure assez précise des mouvements astronomiques, puisque l'ensemble couvre une période de près de 9 siècles. Ces tables de données, indispensables pour déterminer la position des astres, ont en effet comme point de départ le premier jour du calendrier égyptien de la première année du règne de Nabonassar, c'est-à-dire le 26 février 747 avant Jésus-Christ. Mais dans le modèle géocentrique, même avec l'apport des écouens, on rencontre des obstacles. Par exemple, Mars peut parfois donner l'impression qu'elle recule dans le ciel. On parle de mouvement rétrograde. Alors, ça peut sembler étrange à première vue, mais en fait, ce mouvement est une illusion d'optique résultant de la position et du mouvement relatif de la Terre et des autres planètes autour du Soleil. Nous sommes sur une planète en mouvement qui tourne plus vite que les planètes externes. Alors, quand la Terre double Mars, par exemple, on a l'impression, vue de la Terre, que la planète recule avant d'avancer à nouveau. Ce mouvement rétrograde, c'est une sacrée épine dans le pied de la théorie grecque du géocentrisme. Pour expliquer les mouvements complexes des planètes, Ptolémée a introduit le concept d'épicycle et de déférent. Chaque planète se déplace sur un petit cercle, appelé l'épicycle, qui lui-même tourne sur un grand cercle, appelé déférent. Cette double rotation permet de rendre compte des variations apparentes de vitesse ou de direction des planètes, y compris le mouvement rétrograde, où une planète donc semble inverser sa direction pour retourner en arrière avant de repartir en avant. L'Almageste ne parle pas que du mouvement des planètes, car elle contient 13 chapitres sur des sujets aussi variables que les périodes lunaires, la correction des parallaxes, le calcul des diamètres, du Soleil, de la Lune, les éclipses, la précession des équinoxes, l'étude des théories sur les planètes Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne, ainsi que le catalogue de 1022 étoiles et 48 constellations. Ce catalogue est basé sur les observations de Ptolémée ainsi que sur les tables astronomiques précises permettant de prédire la position des planètes, des éclipses et d'autres phénomènes célestes. Ptolémée a utilisé des tables trigonométriques assez avancées pour effectuer ses calculs et il a ainsi perfectionné les mathématiques de son époque. Il a aussi apporté ses connaissances dans le domaine de la géographie et de l'optique. L'impact de Ptolémée sur l'astronomie et les sciences en général est évidemment immense. Son modèle géocentrique, alors finalement il s'est révélé incorrect, mais il a formé un cadre cohérent et mathématiquement assez sophistiqué qui nous a permis de comprendre le cosmos pendant plus de 1000 ans. Pendant le Moyen-Âge, l'Almageste a été traduit en arabe et a fortement influencé les astronomes musulmans. Des savants comme Al-Battani ou Al-Soufi ou Al-Tusi ont commenté, critiqué et amélioré le travail de Ptolémée, tout en conservant son modèle géocentrique. Ces astronomes ont enrichi l'astronomie ptolémaïque avec leurs propres observations et leurs innovations, assurant ainsi la pérennité de son influence. En Europe, l'Almageste a été redécouvert au travers de traductions en latin au XIIe siècle, comme par exemple avec des érudits médiévaux comme Gérard de Crémone ou Albert le Grand, qui ont étudié et commenté ses œuvres. Ce modèle ptolémaïque est devenu le fondement de l'astronomie scolastique et a été enseigné dans la plupart des universités en Europe. Évidemment, après la révolution copernicienne du XVIe siècle, l'influence de Ptolémée a commencé à décliner. Car à ce moment-là, Nicolas Copernic propose un modèle héliocentrique où c'est le Soleil qui est le centre de l'univers. Cependant, même Copernic reconnaissait la sophistication du modèle mathématique de Ptolémée. Il s'en est inspiré pour ses propres théories. Aujourd'hui, bien que le modèle géocentrique de Ptolémée ait depuis longtemps dépassé, son approche méthodique, son utilisation rigoureuse des mathématiques, restent des exemples de la manière dont la science progresse, par l'accumulation, la perfection des connaissances, en se basant sur les connaissances de nos ancêtres plutôt qu'en réinventant la roue à chaque génération. Ptolémée a démontré l'importance de l'observation précise, de la modélisation mathématique dans la compréhension des phénomènes naturels. Ces travaux montrent que même si les théories peuvent être réfutées ou remplacées, comme le géocentrisme, la rigueur méthodologique et la recherche systématique de la précision sont des aspects fondamentaux de la démarche scientifique.